Bienvenue dans la pause fitness. Alors, ce podcast est réservé à ceux qui veulent améliorer leur nutrition, leur entraînement et aussi peut-être leur style de vie. Donc, pour tous ceux qui me suivent depuis quelques temps déjà, vous pouvez me laisser une petite évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est ce qui m'aide le plus. Allez, on démarre l'épisode. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et que vous démarrez correctement la semaine. Alors aujourd'hui, on va parler d'ice moule, on va parler de type de dormeur et on va parler de muscler le milieu des pectoraux, donc le titre qui revient assez souvent dans les magazines de fitness. C'est pour ça, enfin magazine de fitness, feu magazine de fitness papier, il en reste plus que un en France et il est numérique. Et d'ailleurs, j'écris pour lui tous les mois, c'est Fitness Mag. Mais sinon, tous les Men Health, les Men's Fitness, les coachs et compagnie, et je crois qu'ils ont disparu totalement des librairies. Hein. Je ne sais pas s'il y en a de nouveaux qui sont arrivés, mais dans mes souvenirs, il n'y avait plus rien, quoi. Donc oui, avant de démarrer cet épisode, il y avait il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à suivre de régime, non pas parce qu'ils ont ils manquent de connaissances ou quoi sur la nutrition, parce qu'ils savent très bien manger, ils savent très bien s'exercer et tout, mais ils n'arrivent pas à tenir leurs bonnes habitudes sur le moyen long terme et même toute la vie, quoi. Moi, je vous ai donné ce week-end, là, dimanche matin, ceux qui ont suivi, il y a 3 outils pour rendre votre régime inratable. Quand je dis inratable, c'est vous ne pouvez pas le rater si vous suivez ces conditions-là. Et c'est tellement pratique et tellement utile que une proche de moi qui travaille dans le milieu hospitalier au niveau de la diététique va se servir de ça. De ces 3 outils que j'ai mis en place pour justement les patients obèses, etc., qui ont besoin de perdre du poids. Donc vraiment, allez voir, c'est quelque chose, alors c'est un petit travail à faire personnel, hein, c'est des outils pour vous créer votre propre guide de minceur personnel, quoi. Au lieu d'acheter un truc à la Fnac ou autre qui vous ressemblera pas, là c'est vraiment quelque chose qui va vous ressembler. Voilà. Donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode là, et puis on attaque le podcast. Donc l'ail en poudre ou l'ail semoule, est-ce que c'est un remède miracle pour votre cœur? Donc il y a une étude qui a été faite là-dessus sur l'ail semoule. Donc ils disent que il se présente comme un allié incontournable pour la santé cardiaque. Une étude récente révèle que consommer quotidiennement 800 mg de poudre d'ail, soit un quart de cuillère à café, peut améliorer de 50% la fonction artérielle chez les patients atteints de maladies cardiaques. Et tout ça pour moins d'un centime par jour. Alors moi, de l'ail semoule ou de l'ail en poudre, moi j'appelle ça l'ail semoule. Je sais pas si, comment vous appelez ça vous, mais en fonction des régions, des endroits, des pays, on appelle ça différemment. Moi j'en mets déjà dans la vinaigrette, à la place du sel ou des choses comme ça là. J'en mets dans le pain de viande également. Il peut m'arriver d'en mettre dans le pain de viande. Alors le pain de viande, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas du pain. Hein. Il n'y a pas du pain, de la farine, de la chapelure et tout. Alors non, certes, dans beaucoup de recettes, si, mais dans celui que moi je prépare, non. Donc c'est justement le but, c'est qu'il n'y ait pas de blé, pas de gluten, pas de glucides et tout, quoi. Dans quoi je peux en mettre également la soupe, sur des poissons. Après, dès que je peux, j'utilise aussi de l'ail. Là, par exemple, ce week-end, ce que j'ai fait, c'est que j'ai haché beaucoup d'ail. J'ai la petite presse à main là pour hacher l'ail, et je l'ai mis dans un bain, dans un fond d'huile d'olive, dans un récipient, et je le garde au frais, quoi. Comme ça, j'en ai toujours de près. Bon. Sinon, globalement, je sais que pas mal de personnes disaient ça c'est pourri, ça sert à rien, c'est pas le vrai ail, il est déshydraté. Bon, bah, la protéine en poudre, c'est un peu pareil. Et pourtant, il y a quand même certains effets positifs à la protéine en poudre, notamment pour la prise de masse musculaire. Donc, il faut s'attendre peut-être aussi à ce que l'ail en poudre soit intéressant pour justement de l'ail déshydraté, quoi. Haché déshydraté. Bon, je continue la lecture de l'article qui est sorti sur nutritionfact.org. Donc, assez controversé, le rédacteur de ce de ce site web, puisqu'il est plutôt pro-végétal, je crois. Et donc, il a toute la horde des carnivores contre lui. Voilà. Donc, alors que les compléments d'extrait d'ail vieillis, bien plus coûteux, ne montrent aucune amélioration significative, la modeste poudre d'ail fait des merveilles. En plus d'améliorer la fonction artérielle, l'ail en poudre pourrait ralentir, voire stabiliser la progression de l'athérosclérose. Plutôt pas mal, ça. Cette maladie qui épaissit les parois des artères et qui en cause et qui est une cause majeure de décès dans le monde. Ce n'est pas tout. Là, il s'attaque également à l'hypertension. Donc, bah, normal, hein. Si ça agit là-dessus, ça agira aussi sur l'hypertension. Une revue systématique et une méta-analyse ont démontré que l'ail a un effet significatif et cliniquement pertinent sur la pression artérielle, réduisant les risques d'AVC et de maladies cardiaques. Mais est-ce que là, c'est l'ail se moule? On ne sait pas, en fait, hein. Bon, vous pouvez lire l'intégralité de l'article sur, qui est en anglais, sur, dans les notes de l'épisode. Quand c'est en français, je vous le dis, quand c'est en anglais, j'essaye de vous le dire aussi. Globalement, les sujets du podcast sont en anglais. Et les contenus que moi je propose, par contre, sont en français, hein. Je rassure tout le monde. Donc, de toute façon, il n'y a pas de contre-indication à utiliser de l'ail semoule. Enfin, en tout cas, hormis si vous avez un problème de santé particulier qui nécessiterait de pas en consommer, mais c'est plutôt du positif ou du neutre, donc mieux. Enfin bon, on peut en consommer. Je vous dis, essayez de par exemple dans les vinaigrettes que vous préparez, essayez d'en mettre. Alors, je pense à ça aux huiles, hein, parce que Cyril m'a posé une question et peut-être que d'autres se la posent également. Depuis un certain temps, je ne parle plus d'huile de coco pour la cuisson. Ça n'est pas que je l'ai abandonné, j'ai toujours mon huile de coco à la maison, mais étant donné que j'ai une approche diététique plutôt méditerranéenne, avec des glucides modestement, mais quand même j'en ai, je suis pas en diète de sèche actuellement, hein. Donc j'utilise moins d'huile de coco. L'huile de coco, j'ai tendance à la mettre pour les cuissons, pour lors des périodes de sèche où je vais être vraiment très très bas, voire glucides inexistants, pour avoir un peu de triglycérides à chaîne moyenne, récupérer un peu d'énergie, donc de TCM, donc notamment l'huile de coco, pour mes cuissons, surtout les cuissons qui vont être un peu vives, parce que le point de fumée de l'huile de coco est un peu plus élevé que celui de l'huile d'olive. Néanmoins, des recherches assez récentes ont montré que l'huile d'olive avait un point de fumée, on va dire, je crois que ça peut aller jusqu'à 180 degrés sans trop de problèmes. Et qu'il y avait un bénéfice aussi de l'imprégnation de l'huile d'olive dans les aliments qu'on va cuire. Donc moi, je me suis plutôt tourné vers l'huile d'olive pour. Et puis, c'est surtout aussi que depuis pas mal de temps, mes cuissons ne sont plus vives. C'est terminé. J'essaye d'éviter au maximum les réactions de Maillard, quoi. Donc voilà un peu les réponses. Donc l'huile de coco, moi, je l'utilise surtout en sèche quand j'ai plus du tout de glucides. Donc typiquement en diète cétogène adaptée. Donc si vous suivez mon site, je vous ai parlé de cette fameuse diète il y a 15 jours. Donc allez voir, regardez dans les contenus, j'en ai parlé. Sinon, je suis plutôt team huile d'olive, moi. Voilà. Et cette huile d'olive, moi, enfin voilà, j'y fais tremper de l'ail dedans, je fais mes vinaigrettes avec, je vais cuire certains aliments en cuisson douce. Et puis je fais également pas mal de cuisson vapeur, enfin vapeur ou sous pression, vous savez, avec mon instant pot. Et l'huile, en fait, je la mets après cuisson, puisqu'il n'y a pas besoin de graisse pour ces cuissons-là. Voilà. Alors, quel type de dormeur êtes-vous? Ben d'ailleurs, en parlant de dormeur, de tout ça, il y a, je vois pourquoi, je pense à ça, d'aller dormir ailleurs que chez vous. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, est-ce que tu pourrais faire des programmes d'entraînement pour les personnes qui sont en déplacement, qui sont en van life, en camping-car, en camping et tout ça? Quel serait selon toi le minimum syndical à transporter? Alors l'avantage, c'est que j'ai une expérience avec ça, et d'ailleurs vous pouvez l'utiliser soit en déplacement, en van, en camping et tout, mais également si vous êtes dans une période de déménagement où vous avez quasiment plus de, ma- matériel. Vous aurez dimanche prochain un programme spécial pour les gens nomades. Donc qu'est-ce qu'il faut emporter pour, et je parle pas juste pour entretenir la forme, je parle vraiment pour progresser, pour voilà. Et hors de question de prendre des longues barres, des disques, enfin des trucs qui tiendront, un truc de cohérent quoi, pas un truc où il faut avoir une remorque derrière soi pour trimballer son matos de muscu. Donc il y aura un vrai programme avec une vraie progression, enfin vrai, enfin voilà, quelque chose de significatif pour les personnes qui s'entraînent en déplacement. Alors ça peut être soit si vous êtes en déplacement professionnel, mais pour toutes les personnes qui vivent dans un van ou qui vivent dans une caravane ou qui dans un camping-car ou tout simplement qui vont traverser la France. Enfin bref, voilà, je vous en parlerai un petit peu plus longuement dimanche prochain. Voilà. Enfin, c'est pas un peu plus longuement, ça sera beaucoup plus longuement. Donc quel type de dormeur êtes-vous? Alors, une étude récente de Penn State a identifié 4 types de dormeurs et leur lien avec la santé sur le long terme. Donc, les habitudes de sommeil médiocres sont fortement associées à des conditions de santé qui se chronicisent. Hein. Et parmi les dormeurs, on trouve les bons dormeurs, donc ceux qui se catégorisent comme de bons dormeurs, les rattrapeurs du week-end, donc ceux qui ont plutôt un mauvais sommeil toute la semaine à grappiller un épisode de plus sur Netflix et puis le matin à se réveiller tôt pour aller bosser. Et donc du coup le week-end ils se mettent à défoncer leur lit et à faire des grosses grasses mats, ce qui est souvent le cas des premières expériences professionnelles. Moi j'ai été comme ça, on va dire, jusqu'à mes 22-23 ans. Après j'ai eu un rythme plus adulte entre guillemets où j'avais des horaires de coucher et de lever régulières et la semaine et le week-end quoi. Après on a les insomniaques, donc eux malheureusement c'est ceux qui comment dire, alors l'insomnie c'est pas forcément ne pas dormir de la nuit hein. Moi ce qui m'avait marqué, la première expérience d'insomniaque que j'avais eue, c'était dans Taxi 1, l'asiatique là, les asiatiques qui dorment pas ou je sais pas quoi, et je comprenais pas ce que c'était, et pour moi ça m'avait marqué dans ce film de Luc Besson là. Mais l'insomnie, ça peut être, maintenant que j'ai bien étudié le sujet, ça peut être ceux qui ont du mal à s'endormir, mais qui dorment quand même, qui ont du mal à trouver le sommeil, ou ceux qui se réveillent tôt, ou ceux qui se réveillent durant la nuit. Les insomnies sont multiples. Voilà. On a également les adeptes de la sieste, dont je fais partie. Alors, je fais partie pas tout le temps. C'est-à-dire que si la sieste, pour moi, elle sert à tamponner un manque durant la nuit. Par exemple, cas concret, je me couche à heure habituelle, mais je me réveille très tôt pour raison X ou Y. Donc, je me mets à bosser. Ça m'est déjà arrivé de me mettre à bosser vers 5h30 du matin ou 6h, un peu à l'américaine. Bon, bah, arriver à midi et demi, 13h, quand je déjeune, après, fermer les yeux pendant 20 minutes, une demi-heure, c'est l'idéal, quoi. Donc, j'adore ça. Il y en a beaucoup qui le font, notamment ceux qui ont qui travaillent physiquement, qui ont un travail physique. Ils aiment bien se poser dans la bagnole 20 minutes, une demi-heure à la pause déjeuner et avant de repartir bosser. Bon, ce sont des choses, c'est très bien. Il y a qu'en France hein, qu'on culpabilise de faim. Je sais pas s'il y a qu'en France, mais en tout cas en France, les gens faire la sieste, c'est le fainéant. Non, les enfants font la sieste, les adultes devraient faire la sieste quand ils en ont besoin, et les seniors font la sieste. Voilà. Donc c'est d'ailleurs mieux vaut, si vous avez besoin de rattraper du sommeil le week-end, préférez une longue sieste le samedi que le dimanche, hein, parce que le samedi vous avez encore une nuit du samedi au dimanche pour avoir un sommeil un peu perturbé, mais si vous faites trop de siestes le dimanche soir, vous ne trouverez pas le sommeil et ça va flinguer votre début de semaine. Donc voilà, donc les insomniaques en particulier montrent une corrélation significative avec des maladies comme les troubles cardiovasculaires, le diabète et la dépression. Les chercheurs soulignent la difficulté de changer les habitudes de sommeil enracinées dans notre style de vie et l'importance d'éduquer le public sur l'hygiène du sommeil pour améliorer la santé globale. Donc cette étude soutenue par la National Institute of Health soulève l'importance d'interventions ciblées pour promouvoir un sommeil sain, adapté aux différents profils de dormeurs et à leur vulnérabilité socio-économique, afin d'améliorer les relations sociales, la performance au travail et de promouvoir un vieillissement sain. Voilà, vieillissement, bon, de vieillir indépendant et valide et tout ce qu'on veut, quoi. Donc je sais pas dans quel groupe vous êtes. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire bon dormeur et adepte de la sieste. Donc, j'ai 95%. En fait, je suis 90% bon dormeur et restant adepte de la sieste parce que la sieste, je la fais beaucoup plus par habitude souvent que par besoin. Et vous verrez que si vous vous mettez à faire la sieste régulièrement, il y a une habitude qui va se créer. Surtout, 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 je vous déconseille de dépasser les 20 à 30 minutes de sieste et d'essayer de la faire le plus proche possible. Enfin, l'idéal étant avant 14 heures, quoi. Voilà. Parce qu'après, ça peut avoir des effets quand même sur le surtout si vous vous couchez tôt le soir, sur l'endormissement et sur votre qualité de sommeil la nuit, quoi. Bon, dernier sujet, c'est muscler le milieu des pectoraux. Donc, c'est un article paru dans Men's Health, donc magazine américain, et il donne 5 exercices pour développer le milieu des pectoraux. Et moi, j'avais envie de vous dire si je suis d'accord avec et commenter un petit peu ça. Donc, muscler le milieu des pectoraux, c'est pour ça que j'ai mis cette vignette là sur le sujet du podcast. Je trouvais que cette image représentait bien. C'était après une de mes séances de pectoraux, et on voit bien le galbe interne au niveau des pecs. Donc c'est pour montrer un petit peu à ceux qui veulent savoir. Vous voyez l'ombre là qui part en pointe au niveau des pectoraux. C'est ça là, le sillon interpectoral. Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais c'est quelque chose qui est recherché parce que ça donne cette ligne entre qui sépare bien les deux pectoraux, les deux pectoraux. C'est également ce qui va donner une certaine allure si vous portez un col en V ou un débardeur ou même une chemise légèrement ouverte. C'est pas forcément le haut des pecs, mais c'est aussi cette ligne au milieu qui va séparer. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça peut être un objectif esthétique visé et qui est très 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 largement mis en valeur aussi par le niveau de gras que vous avez. Donc si vous avez beau avoir des pectoraux très renflés, très 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 galbés, si vous avez de la viande grasse et pas de la viande maigre sur la poitrine, ça rendra pas un très bon effet. Alors avec un t-shirt, ça sera galbé, mais torse nu, ça fera des pectoraux qui manqueront de séparation. Donc eux, ils donnent des exercices, alors non pas pour sécher, pour essayer de muscler cette zone. Alors effectivement, cette zone peut être plus ou moins stimulée. Hein. On peut stimuler des zones musculaires, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout cas, les raccourcis souvent, enfin, je pense qu'aujourd'hui ça se dit plus trop, mais il y a une période où les gens disaient on peut pas cibler les pectoraux, ils allaient même jusqu'à dire on peut pas isoler le haut, le bas et tout ça. Bon, aujourd'hui ceux qui ont lu les bons ouvrages savent que on peut totalement scinder le travail musculaire. Et déjà une des premières indications, enfin on l'avait tous vu, mais le travail au niveau des courbatures. Les courbatures, même si on sait que beaucoup, en grande majeure partie des courbatures, c'est les fascias, mais on voit bien qu'en fonction du travail, des exercices qu'on va faire, les courbatures ne seront pas localisées au même endroit. Pourtant, on a travaillé les pecs, mais un coup, on a des courbatures plutôt au milieu, plutôt en haut, plutôt en bas, plutôt au niveau de l'épaule. Donc pourquoi ? C'est bizarre, puisque on n'est pas censé pouvoir localiser. Pour rappel, le fascia, c'est autour des muscles. Et là, on pourrait pas localiser des zones. Donc, moi, j'ai jamais cru à ça, puisque quelqu'un qui va faire toujours le même exercice de pec, qui va faire que du développé couché, hormis s'il a une génétique vraiment du feu de Dieu pour développer ses pectoraux, sinon il aura pas des super pecs, quoi. Il aura des pecs de développé couché. Très souvent, s'il a un peu de chance, il aura un peu d'extérieur, un peu de bas. Franchement, difficilement un bon renflement au milieu et très rarement du haut de pec, quoi. Bref, ce qui ne l'empêchera pas d'être très fort, d'avoir un avant d'épaule et des triceps, hein, mais les pecs, ils seront pas bien complets, quoi. Alors, eux, ils donnent 5 exercices. Alors, le squeeze plate press, donc c'est de faire du squeeze press, donc les mains serrées avec un disque entre les mains et vous poussez comme ça. Bon, moi je vais vous donner une variante. Cet exercice, ça peut être bien, mais c'est un effort volontaire que vous êtes obligé de faire pour tenir le poids, et même le poids, s'il est pas très lourd. Enfin, moi, ce truc me pose deux problèmes. La première chose, le premier problème, c'est que ça, il limite beaucoup l'amplitude parce que la plaque, hormis si vous prenez une plaque de 2,5 kg, mais si vous prenez un disque normal, donc à peu près 20 kg pour faire cet exercice, vous allez être très vite limité parce que vous allez le presser au milieu. Donc, il va y avoir toute une partie qui va limiter l'amplitude. Donc, pourquoi pas, hein, ça va squeezer le milieu des pecs, mais l'amplitude sera pas terrible. Donc, moi, je suis pas fan de cet exercice. À l'inverse, je vous recommande l'exercice des pompes magiques que je vous ai mis. Vous tapez Fitness Miss pompe magique sur Google, vous allez trouver tout de suite, qui est bien mieux. Et en plus, vous pouvez le faire avec assez peu d'équipement. Ensuite, il y a l'écarté à un bras avec le câble, donc des poulies vis-à-vis, mais pas vis-à-vis, du coup, juste d'un côté. Là, ça peut être une bonne technique. Là, je suis assez d'accord avec eux parce que vous pouvez le faire aussi à deux bras, mais l'avantage à un bras, c'est que vous allez pouvoir poser la main qui ne travaille pas sur le pectoral qui travaille, Donc, c'est comme faire des poulies vis-à-vis, mais vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin que de vous limiter au centre du mouvement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller continuer votre amplitude très très loin du côté opposé au muscle qui travaille. Donc vous allez augmenter la contraction et vous allez bien sentir le milieu des pectoraux, enfin du pec qui travaille, se contracter. Donc ça vous permettra avec la main qui ne travaille pas de localiser un petit peu les fibres qui travaillent le plus en fonction de la position de la main. Donc pourquoi pas, ça peut être une très bonne solution pour aller chercher, déjà pour aller bien vasculariser cette zone, apporter du sang, la faire congestionner, apprendre à la contracter et tout, et puis à terme de lui faire prendre du volume, de la force, tout ça quoi. Ensuite, en troisième exercice, il donne le développé en prise serrée avec les haltères hexagonales. Donc ça, c'est plutôt, moi, ce que j'appelle une forme de squeeze press avec haltères hexago. Ça, c'est un exercice, par contre, que moi aussi, je peux faire. Que ça soit en incliné, en couché, ou pas en décliné, d'ailleurs. Parce que l'amplitude est rétablie par rapport au squeeze press avec une plaque, donc un disque de fonte. Celui-là, vous récupérez toute l'amplitude. Donc avec les coudes plutôt proches du corps, de descendre, de contracter. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie faire et que je trouve intéressant. Alors c'est intéressant si vous arrivez, il faut bien réussir à placer ses mains. Parce que si vous placez les mains trop perpendiculaire. En fait, si vous placez les mains beaucoup trop alignées avec le sol, vous allez pousser vers le haut. Ce qu'il faut, c'est être légèrement convergent dans le placement des bras et des mains, de manière à ce que vous exerciez une poussée haltère contre haltère. Pas non plus face à face, mais de biais, de manière à ce qu'il y ait quand même une contraction un peu plus intense sur le milieu des pectoraux. Vous verrez que l'épuisement est très différent d'un développé couché traditionnel, parce qu'il y a à la fois cet épuisement de poussée de haut en bas, mais également de ces poussées face à face. Et c'est une sensation étrange. Au début, on se dit, mais c'est bizarre comme exercice. Et c'est parce qu'il y a cette double casquette au niveau de la poussée, quoi. Qui est un peu étrange au début, mais on s'y habitue. Donc celui-là, je le valide, je suis assez d'accord avec eux. De toute façon, vous verrez qu'il y aura une congestion au niveau du milieu des pecs si vous réagissez bien à ce mouvement-là. D'ailleurs, si vous avez envie de savoir un petit peu plus sur cette régionalisation du travail des pectoraux, je vous recommande la méthode de la vie étroite. De mémoire, ils en parlent avec la localisation. Bon, après, ça fait acheter un livre pour juste avoir cette réponse. Vous pouvez aussi vous dire que ça marche. Et voilà. Développé à la machine. Donc, il y a le développé à la machine convergente et tout ça. Alors, moi, je suis d'accord à partir du moment où vous développez de manière de biais. C'est-à-dire que même si votre machine est convergente, vous vous mettez légèrement de biais sur la machine. Et même... Vous pouvez essayer de prendre, si vous avez deux prises en main, d'essayer de prendre une des prises plutôt neutre que prise classique. Alors les bonnes machines ont des prises de biais entre neutre et classique d'ailleurs, et elles sont très longues. Et là, vraiment vous mettre de biais pour aller chercher, c'est toujours pareil, pour vraiment contracter le maximum l'intérieur des pectoraux, il va falloir avoir une amplitude, une contraction très très forte. Et pour augmenter cette contraction, faut que la main dépasse le milieu des pectoraux, faut que ça aille au-delà. pour aller vraiment au maximum des capacités de contraction de votre pec. Et c'est pour ça que en vous mettant, vous asseyant de biais sur la machine et en contractant en poussant, c'est très difficile en podcast d'expliquer, en poussant de la main qui est dans le sens de vos pieds en fait, hein, quand vous êtes assis, vous allez avoir une bien meilleure contraction. Plus vous allez vous pencher, enfin vous tourner, plus la contraction va augmenter. Bon, le bon placement pour moi, c'est celui où l'omoplate est encore bien stabilisée. Voilà. Donc ça, je valide si c'est en unilatéral, de biais, pour bien solliciter. Sinon, non, c'est un développé incliné machine, un développé couché machine ou un développé décliné machine. Il n'y a pas d'avantage. Ensuite, ils disent du développé avec haltère et bande élastique. Alors, développer haltère avec bande élastique, oui, ça peut être intéressant, mais c'est hyper compliqué à mettre en place. Donc, il faut déjà réussir à bien mettre les élastiques. Alors, pourquoi ils disent ça? Parce que avec les élastiques, alors moi, j'aurais plutôt dit écarter avec haltère avec élastique, de manière à récupérer la perte d'intensité qu'on a en haut des mouvements sur les écartés avec élastique. Alors, pour faire ça, les élastiques, typiquement, les gens vont les mettre au sol ou sous le banc. Ce qui est une mauvaise idée. Si vous voulez bien placer les élastiques sur des écartés pour augmenter la contraction, non pas sur l'étirement, mais sur la contraction, si vous voulez vraiment augmenter la contraction sur la partie haute des écartés, les élastiques, faudra les accrocher à droite et à gauche, de manière à ce qu'ils soient tendus quand vos mains arrivent au-dessus des yeux. Et là, vous pourrez vraiment parler de contraction augmentée. Donc ça, pourquoi pas? Parce que là, en fait, c'est ce que vous faites, vous reproduisez un petit peu la poulie vis-à-vis. Une autre technique que je peux vous recommander, si vous voulez faire un superset intéressant et que vous vous entraînez en home gym, c'est de caler vos élastiques, je sais pas moi, peu importe, autour de votre baie vitrée pour faire des écartés poulie vis-à-vis avec, mais de faire en superset avec les écartés haltères. Donc vous faites vos écartés haltères classiques, vos 10-12 reps classiques avec vos haltères, vous posez ça, vous levez, vous montez direct, vous prenez votre poulie vis-à-vis sous forme d'élastique là, et vous travaillez beaucoup en contraction, vous faites vos écartés en contraction en allant chercher vraiment à croiser les mains et tout pour augmenter à mort la contraction. Donc en fait avec deux mouvements, vous essayez de récupérer une machine en gros quoi, une machine de poulie vis-à-vis. Et pour rappel, à la poulie vis-à-vis, vous pouvez aussi croiser les mains et donc augmenter la sensation et la contraction du milieu des pecs. Donc voilà les exercices que eux recommandent. Donc voilà, moi j'ai donné mes corrections. Alors, je vous recommande en sixième position, je vous ai mis autre chose à voir pour vos pecs avec un lien. Vous allez avoir plein de petits contenus pour justement développer les pectoraux. Sachez que moi, je me suis un peu battu pour développer mes pecs. J'y ai mis beaucoup d'intensité, d'amour, de temps, etc. pour trouver ce qui fonctionnait correctement. Alors vous allez me dire on est tous différents, mais regardez ma photo avant après, j'avais pas des super pecs et j'avais pas non plus une génétique facilement j'avais un pote d'ailleurs qui lui sans jamais rien avoir fait, il avait une prédisposition à avoir des pecs, c'était insupportable quoi. Et même après un an de muscu, il est toujours plus de pecs que moi alors que lui il avait jamais fait ne serait-ce qu'une pompe quoi. Donc c'est vrai que j'ai vraiment dû me débattre avec les techniques d'entraînement et tout pour justement apprendre à bien développer mes pecs parce que pour moi les pecs c'était très important, pecs bras un peu comme n'importe quel bonhomme hein. Et puis surtout j'avais vu trop de films d'Arnold et donc voilà, j'ai voulu les avoir, je les ai eus et je vous donne plein de petits outils pour les développer. Donc je vous ai mis un lien en plus pour aller voir le sixième point de l'entraînement. Donc voilà, j'espère que ça vous convient comme épisode. Alors n'hésitez pas aussi à aller voir les trois outils pour rendre votre régime inratable, pour vous développer un guide de nutrition personnelle qui vous ressemble et vous ne pourrez plus jamais échouer au régime. Donc ça, c'est vraiment le défi et le pari que je prends. Et donc, allez voir tout ça, vous les avez en note d'épisode. Et sinon, ben merci encore pour tous vos commentaires que je reçois sur Instagram, sur partout d'ailleurs, hein, sur tous les canaux, par rapport aux remerciements que vous me faites sur le podcast, les dédicaces que vous pouvez me faire en story et tout. J'apprécie énormément. Je suis vraiment content. Alors, je sais qu'il y en a qui sont, j'ai vu, qui sont frustrés de pas avoir plus d'épisodes par semaine. C'est aussi ça, je trouve, qui est intéressant, c'est d'avoir un rendez-vous hebdomadaire, un petit peu comme avant, dans les années 90, fin des années 90, quand on attendait une série, un épisode qui arrivait que de temps en temps, qu'une fois par semaine. Ben moi, j'aime ça et j'ai envie d'entretenir cette petite, ce petit désir que j'apprécie beaucoup. Et puis, j'ai pas envie de baisser en qualité, parce que beaucoup d'épisodes voudraient dire beaucoup de travail voudrait dire peut-être parfois du travail un peu bâclé, et j'ai pas envie. J'ai envie que ça soit un plaisir pour vous à m'écouter et pour moi à le produire, même si ça reste du travail, même un seul. J'ai envie que ça reste quand même du plaisir pour moi, parce que je pense que le plaisir et la passion peut s'entendre dans la façon dont je m'exprime, et c'est important pour moi de conserver ça. Voilà. Donc vous avez encore une fois tous les liens, tout ce dont j'ai parlé, toutes les sources dans les notes de l'épisode. Si vous avez des doutes, allez voir quand même, hein, dans votre boîte mail. Normalement, vous devez recevoir l'épisode toutes les semaines par email, et vous avez le lien justement pour accéder à la page de l'épisode qui vous montre tout. Alors, la description n'est pas celle de YouTube, hein, je tiens encore une fois à préciser, c'est bien celle de l'épisode sur la page de l'épisode. Voilà. Très bonne journée, très bonne semaine, très bon entraînement, et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque que je... Alors, c'est un Netflix version fitness privé qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours, hein, que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu. Tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous le trouvez pas, vous allez sur www.fitnesssmith.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.